Tout de suite, il est 18h. C'est l'heure du journal présenté par Benoît Bouscarel. Bonsoir Benoît.
Bonsoir. C'est une véritable bombe que Donald Trump a visiblement bien l'intention d'utiliser dans les heures qui viennent. Une bombe politique et institutionnelle qui tient sur les quatre pages d'un mémo à charge contre le FBI. On est toujours dans les méandres de l'enquête sur l'ingérence russe pendant la campagne présidentielle de 2016. Marco Voltaire nous attend en direct de New York. Analyse à suivre dans ce journal de Thomas Negaroff. À Calais, la tension n'est que partiellement retombée après les violences d'hier entre migrants à l'arme à feu. Gérard Collomb s'est rendu sur place pour une nouvelle fois envoyer un message de fermeté aujourd'hui. Reportage de Thibaut Lefebvre. Tariq Ramadan, présenté à un juge d'instruction cet après-midi, il pourrait être placé en détention dans la soirée. Le prédicateur est poursuivi par deux femmes pour viol. Explication à suivre dans ce journal de Fiona Mogadam. Et puis l'enquête de cette édition, signée ce soir Élodie Guéguin du service investigation de Radio France, sur le récent et mystérieux voyage d'Alexandre Djoury à Londres où il a été arrêté. Aux États-Unis, un mémo concernant le fonctionnement du FBI, pour le critiquer sévèrement, est au centre de toutes les attentions cet après-midi. D'ici à la fin de la journée, heure américaine, d'ici à demain matin en France, ce mémo pourrait être rendu public. Et cette publication, si elle est permise, comme tout porte à le croire, par Donald Trump, pourrait représenter une des pires attaques connues du pouvoir exécutif américain contre le FBI et plus largement contre le système judiciaire. Bonsoir Marco Voltaire.
Bonsoir.
Vous êtes en ligne avec nous en direct de New York. Ce mémo, c'est une note de 4 pages détaillant les conditions dans lesquelles ont été réalisées des écoutes sur l'équipe Trump pendant la campagne de 2016. Dans quelles conditions a-t-il été rédigé et dans quelles conditions pourrait-il aujourd'hui être publié ?
Alors, pour bien comprendre, hein, il a été rédigé par un élu républicain au Congrès, un fidèle allié du président. Et dans cette note qui fait 4 pages, comme vous l'avez dit, il est donc question de la mise sur écoute de certains membres de l'équipe de campagne de Trump dans le cadre de cette enquête, hein, sur l'ingérence russe dans l'élection présidentielle. Et il se trouve, selon ce mémo, que cette mise sur écoute aurait été politiquement motivée, en d'autres termes, que le FBI et le département de la justice auraient cherché à nuire au président. Sauf que, eh bien, ces informations seraient très bancales, pas vérifiées et surtout très partisane, et que la vraie motivation de ce mémo serait uniquement de décrédibiliser l'enquête russe qui, vous le savez, se rapproche de plus en plus d'un possible interrogatoire de Donald Trump. Quant à la publication, eh bien, on est en terrain inconnu. A priori, on pourrait voir le document sortir dans la soirée heure française dans le journal du Congrès.
Alors justement, Marco, Donald Trump aurait pu s'opposer à cette publication, mais on apprend à l'instant, vient juste de tomber, que Donald Trump annonce effectivement déclassifier cette note critiquant le FBI.
Voilà, ça nous évitera de continuer à parler de façon hypothétique. Donald Trump, on le savait, hein, depuis plusieurs jours, était favorable à la publication. On n'attendait plus que le feu vert. Il vient donc tout juste de tomber. De toute façon, ce matin, on avait cette indication, hein, déjà sur Twitter, très claire. Donald Trump a clairement mis en cause l'intégrité du FBI et du ministère de la Justice. Je vous lis le tweet, hein, leurs plus hauts responsables ont politisé le processus sacré d'investigation en faveur des démocrates et contre les républicains. Un clash incroyable et un Donald Trump qui accable la direction du FBI, alors que Christopher Wray, le nouveau directeur du FBI, nommé par Trump, avait lui-même fait savoir que la publication de cette note était une très mauvaise idée parce que les accusations qui y figurent, encore une fois, seraient tout simplement incorrectes ou très orientées.
Merci Marco Voltaire en direct de New York pour France Culture. On apprend donc à l'instant cette déclassification de la note critiquant le FBI par Donald Trump. Alors, voyons quelles conséquences va avoir cette publication, non seulement sur le plan de la politique intérieure, mais aussi sur le fonctionnement même des institutions américaines. Écoutez l'analyse de Thomas Negaroff, journaliste spécialiste des États-Unis.
Le système politique américain, il fonctionne tant que l'indépendance du FBI est garantie. Mais cette garantie d'indépendance, elle repose sur une confiance réciproque. Le FBI doit avoir une confiance sans faille dans le président, et inversement, le président doit avoir une confiance sans faille dans le travail du FBI. Or, cette confiance, elle est rompue de part et d'autre. Le FBI n'a aucune confiance dans la parole présidentielle. Les mémos, les documents qu'il lui donne sont souvent un peu tronqués. La CIA, c'est pareil. Et inversement, le président n'accorde guère de confiance à ses agences de renseignement. Il y en a quand même 16 qui ont évoqué une ingérence russe pendant la campagne. Et lui continue de dire qu'il n'y a pas eu d'ingérence russe. Le fond du problème, selon moi, c'est qu'il ne supporte pas que des agences de renseignement puissent mettre en doute l'excellence de sa campagne électorale, le fait que sa victoire ne tienne qu'à lui et à son génie personnel, là où les agences de renseignement sont plus dubitatives, s'appuyant sur des faits. Il y a une défiance réciproque, et cette défiance, elle atteint aujourd'hui un paroxysme dans la publication de ce mémo, qui met même en difficulté le nouveau patron du FBI, qui pourtant a été nommé par Donald Trump. Même au temps du Watergate, Richard Nixon n'avait pas osé taper le FBI. Il avait demandé la révocation du procureur Archibald Cox en octobre 1973. Pour autant, le FBI n'avait pas été décapité comme il l'a été sous Trump. Je rappellerai quand même que le numéro 1 et le numéro 2 du FBI ont été limogés. Là, on est vraiment, je crois, au seuil d'une crise politique très profonde qui interroge même les institutions américaines.
Des propos recueillis par Valérie Crova. Toujours aux États-Unis, les autorités fédérales américaines doivent publier aujourd'hui une mise à jour de leur doctrine nucléaire. Conformément au discours sur l'état de l'Union prononcé en début de semaine par Donald Trump, il devrait s'agir d'accroître sensiblement les capacités nucléaires de l'armée US. Au Kenya, deux jours après la cérémonie fantoche de l'opposant Raila Odinga qui a tenté de s'auto-reconnaître comme président du peuple, la tension est toujours très vive. Et aujourd'hui encore, les programmes de trois des principales chaînes de télévision du pays sont suspendus. Un acte de censure qui va à l'encontre du jugement de la haute cour de Nairobi. Hier, elle avait ordonné que les chaînes puissent reprendre le cours normal de leurs émissions. Un signe, parmi bien d'autres, que la contre-offensive du président réélu Uhuru Kenyatta et de son régime est déterminée. Reportage à Nairobi de Laure Broulard.
Après l'avocat de l'opposition TJ Kajwang, c'était ce matin au tour de Miguna Miguna, un proche de Raila Odinga, d'être brutalement arrêté à son domicile par la police. Les deux hommes étaient présents sur l'estrade lors de la prestation de serment parallèle de l'opposant. Ils font tous deux partie du mouvement de résistance nationale créé par Raila Odinga après l'élection d'octobre, un mouvement aujourd'hui considéré comme une organisation criminelle par le gouvernement kényan. Mardi dernier, les autorités ont laissé la cérémonie se dérouler sans encombre, évitant une confrontation entre les partisans de l'opposition et la police. Mais depuis, le ministre de l'Intérieur, Fred Matiang'i, a promis que toutes les personnes impliquées allaient le regretter. Reste à savoir jusqu'où ira le gouvernement. Ni Raila Odinga, ni son bras droit, le sénateur James Orengo, ne sont pour l'instant inquiétés. Quant aux deux opposants arrêtés, ils ont rapidement été libérés sous caution. La répression des médias, elle, se poursuit. Les autorités ont jusqu'ici ignoré un arrêt de la Haute Cour qui a ordonné hier la reprise immédiate de la transmission des programmes de plusieurs chaînes de télévision privées. Des méthodes critiquées par les chancelleries occidentales qui demandent également à l'opposition de respecter la Constitution et appellent une nouvelle fois au dialogue.
En Turquie, à la frontière syrienne, les représailles kurdes, deux personnes ont été tuées aujourd'hui et 16 autres blessées dans la chute de roquettes en provenance du nord de la Syrie. Elles sont tombées sur la ville de Reyhanlı, tirée d'après les autorités turques par les YPG, les unités de protection du peuple, qui sont elles-mêmes visées par Ankara dans le cadre de son offensive Rameau d'Olivier. La prison à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 43 ans, c'est la peine prononcée en début d'après-midi par le tribunal de Woolwich dans l'est de Londres à l'encontre du terroriste de Finsbury Park en juin dernier. L'homme avait lancé une camionnette contre des fidèles musulmans à proximité d'une mosquée. Il y avait eu un mort et 12 blessés. Un nouveau naufrage signalé ce matin en Méditerranée au large des côtes libyennes. D'après l'Organisation internationale pour les migrations, au moins 90 personnes, en majorité pakistanaises, auraient péri à l'aube. Plus loin sur la route des migrants Calais à la fois un mur et un mirage. Message envoyé aujourd'hui par Gérard Collomb aux migrants et une nouvelle fois aux associatifs présents sur place. Le ministre de l'Intérieur s'est rendu ce matin à Calais au lendemain des affrontements entre migrants qui ont fait 5 blessés par balle, dont 4 sont toujours ce soir entre la vie et la mort. Rien de nouveau donc dans le traitement politique de cette situation. Toujours la fermeté affichée du gouvernement, à cela près que l'État prendra désormais à sa charge la distribution des repas aux alentours de Calais. Reportage sur place de Thibault Lefebvre.
Des distributions de nourriture qui ont repris dans un climat très tendu. La raison essentielle, c'est le cycle de vengeance qui a provoqué le chaos hier dans les rues de Calais. D'abord des tirs attribués à des passeurs afghans, puis une expédition punitive menée par des Érythréens et des Éthiopiens. Habib est éthiopien, il a assisté de son campement de fortune aux échauffourées.
C'est inexplicable, on peut pas le dire, je sais pas ce qui s'est passé hier. En fait, j'étais là, c'était tellement violent. On était en train de prendre le dîner, en fait. Et on a vu qu'il y a un grand nombre de personnes qui étaient venues sur le terrain pour frapper les Afghans.
Des policiers qui doivent faire face à des réseaux de passeurs parfois armés. Un niveau de violence qui ne surprend pas Gilles Debove. Il est porte-parole à Calais du syndicat Unité SGP Police Force Ouvrière.
Vous savez, cet été, mes collègues du commissariat ont interpellé un véhicule de passeurs qui venait de l'autoroute A16 vers Calais. Il a été interpellé avec des armes dans la voiture. Il y a des règlements de compte, mais vous comprenez la difficulté. Pour nous, c'est de pouvoir interpeller. Il y a très peu de réponses pénales. Il y a des difficultés pour identifier ces gens qui sont présents sur le secteur. Il y a toutes ces choses-là qui, mises bout à bout, enraillent un peu le travail des policiers qui œuvrent sur le Calaisis.
Un chiffre pour illustrer le désarroi des forces de l'ordre, 0, c'est le nombre d'interpellations hier après 7 heures de combat de rue.
Reportage de Thibault Lefebvre. Un accord a été trouvé aujourd'hui pour maintenir l'activité de l'aciérie Ascoval de Saint-Saulve dans le Nord pendant un an au moins. C'est le ministre de l'économie Bruno Le Maire qui l'a annoncé aujourd'hui. L'État va verser 5 millions d'euros et les salariés toucheront une prime de 450 euros mensuels pendant toute cette année. Reportage de Raphaël Ebenstein.
Plus de 3 heures de réunion, 3 suspensions de séance, rien n'aura été facile aujourd'hui à Bercy. Mais à la sortie, Bruno Le Maire a annoncé une aide de l'État de 5 millions d'euros et un accord qui garantit l'activité du site pendant un an et qui prévoit même le scénario le plus pessimiste à l'issue de cette période.
Nous aurons à disposition un fonds de 14 millions d'euros qui garantira aux salariés que si jamais les choses se passent mal, bien il y aura les fonds disponibles pour financer un plan social dans les meilleures conditions.
Pas de cri de joie des représentants des salariés, mais Bruno Kopczynski de la CFDT, porte-parole de l'intersyndicale d'Ascoval, salue quand même l'intervention de l'État.
Il vaut mieux tard que jamais, mais ça faillit être jamais. Ils ont couru, ils ont fait un véritable marathon sur les derniers jours, et au final, ils arrivent quand même au bord de la table, donc je pense que c'est bien, quoi. On commence à reprendre espoir.
Reste à trouver un repreneur d'ici un an pour l'usine de Saint-Saulve et ce ne sera pas simple, selon Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France.
Il ne s'agit pas de faire naître de nouveaux espoirs, ça va être très dur de retrouver un repreneur. On a des idées en tête, on a des repreneurs qui sont venus aujourd'hui frapper à notre porte, mais je veux savoir si c'est du solide, parce qu'on les a tellement baladés depuis tellement d'années, les salariés d'Ascoval, d'Ascométal, qu'il ne faut pas leur raconter l'histoire.
Et les salariés d'Ascoval pourraient précisément cesser leur mouvement de grève dans les heures qui viennent.
Les plates excuses sous la forme d'une lettre ouverte adressée par le PDG de Lactalis aux victimes du lait pour bébé contaminé au salmonelle, Emmanuel Beignet, qui en profite par ailleurs pour annoncer la fermeture définitive d'une des 2 tours de séchage du site de Crande où est partie la contamination. Démarche du PDG de Lactalis donc qui ne touche pas l'association des familles de victimes qui dit rester sourde à ses excuses. Et puis cette annonce qu'on apprend à l'instant de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes qui va saisir la justice, la DGCCRF, qui dit avoir constaté des infractions dans le cadre de promotions agressives pratiquées récemment par la grande distribution. C'est la suite des affaires autour des discussions et des échauffourées autour des pots de Nutella dans certaines enseignes de grande distribution. Après 2 jours de garde à vue, Tariq Ramadan pourrait dès ce soir être placé en détention provisoire. C'est en tout cas ce qu'a requis le parquet de Paris cet après-midi. Le théologien accusé de viol par 2 femmes fait l'objet d'une enquête depuis le mois d'octobre dernier. Bonsoir Fiona Mogadam.
Bonsoir.
Les premières plaintes sont jugées suffisamment sérieuses pour une mise en examen et donc un placement en détention.
Et oui, et c'est maintenant le juge d'instruction qui va décider de la mise en examen ou non de Tariq Ramadan dans ces 2 affaires de viol. L'islamologue a passé 48 heures en garde à vue. Il en est sorti la nuit dernière. dernière et pendant ces deux jours. Il a notamment été confronté à l'une des plaignantes hier pendant 3h30. Tariq Ramadan et son accusatrice ont livré leur version des faits devant les enquêteurs. Cette femme qui souffre d'un handicap à la jambe a expliqué avoir été violée, frappée et humiliée par Tariq Ramadan en 2009 dans un hôtel à Lyon. Lui nie les faits comme toute relation sexuelle avec cette femme et évoque un flirt sur les réseaux sociaux et uniquement une rapide rencontre dans un hall d'hôtel. Mais la plaignante a révélé l'existence d'une cicatrice de Tariq Ramadan, un détail intime, difficile à connaître sans contact rapproché. Le parquet a finalement décidé donc d'ouvrir une information judiciaire pour viol sur personne vulnérable pour ce dossier. Autre fait reproché à Tariq Ramadan, un viol qu'il aurait commis en 2012 à Paris cette fois. La plaignante Enda Ayari, ancienne salafiste aujourd'hui militante féministe, accuse l'islamologue de l'avoir violée dans un hôtel parisien il y a 6 ans. Donc elle avait déjà évoqué cette affaire dans un livre il y a 2 ans, mais n'avait pas nommé son agresseur présumé. Des faits que nie également Tariq Ramadan. Le professeur d'études islamiques à Oxford avait été mis en congé de l'université anglaise après d'autres révélations venant d'anciennes élèves en Suisse, cette fois, qu'il accuse d'abus sexuels alors que certaines étaient mineures. Tariq Ramadan avait là aussi nié en bloc toutes ces accusations. Aucune n'a jusqu'à présent déposé plainte.
Merci Fiona Mogadam. Et nous en arrivons à l'enquête de la cellule d'investigation de Radio France qui présente ce soir une nouvelle facette du personnage sulfureux d'Alexandre Djouri. Bonsoir Élodie Guéguin.
Bonsoir.
Cet homme d'affaires intermédiaire proche de Nicolas Sarkozy a été arrêté à Londres le mois dernier. Il vit depuis avec un bracelet électronique, avec l'interdiction de quitter l'Angleterre. Et vous, Élodie, vous vous êtes demandé ce que pouvait bien aller faire justement à Londres Alexandre Djouri.
Eh bien oui, parce que Djouri, vous savez, est un personnage clé de l'affaire libyenne, ce possible financement de la présidentielle de Nicolas Sarkozy par Kadhafi. Les juges français le soupçonnent de blanchiment d'argent, raison pour laquelle il demande aujourd'hui son extradition. Ce que l'on sait moins, ce qu'ont découvert les enquêteurs, c'est que Djouri peut être considéré comme une vraie figure de la France-Afrique. Si l'intermédiaire s'est rendu si souvent à Londres ces derniers temps, c'était notamment pour voir l'ancien directeur de cabinet du président du Gabon. Cet homme s'appelle Meksan Akrombessi. Il vient d'être mis en examen en France pour corruption. Djouri le considère un peu comme une porte d'entrée pour faire des affaires en Afrique, raconte Pierre Péan, auteur du livre La République des Mallettes.
Ce n'est pas un hasard s'il a été arrêté en allant voir Akrombessi, parce que c'est Akrombessi qui a la clé du coffre. Plus qu'Ali Bongo. Toutes les histoires de pétrole, tous les grands contrats, c'est lui qui a toutes les clés.
Et en plaçant Djouri sur écoute, les juges français ont eu un aperçu de l'étendue de l'intérêt qu'il porte au Gabon. Lui qui, dans les années 90, a profité des réseaux Pasqua, lui qui a été formé aussi par des figures du groupe ELF, Alfred Sirven, André Tarallo. Un exemple, le 20 mars 2013, Alexandre Djouri téléphone à Frédéric Bongo, le demi-frère du président. Il veut un rendez-vous avec le chef de l'État pour parler pétrole. Écoutez cette conversation, nous l'avons fait lire par des journalistes.
Allô Fred ?
Oui ?
Dans 3 jours, il y a l'organisation des pays exportateurs de pétrole qui va se tenir au Gabon avec tous les pays producteurs.
Oui ?
Et j'avais beaucoup de messages à faire passer au président. Je sais vraiment comment augmenter le rendement sur le prix du baril, tu vois ce que je veux dire ?
D'accord, oui.
Et il y a beaucoup de choses comme ça que je voulais expliquer à Ali Bongo.
Si je déclenche un rendez-vous, tu prends ton avion et tu viens ?
Ouais, voilà, c'est ça, tu déclenches.
Tu déclenches et j'arrive, il est comme ça, Djouri, son culot, son entre-gens lui ont ouvert tous les cercles de pouvoir, et pas seulement, donc, à Paris ou à Tripoli. En fait, c'est en Afrique subsaharienne que cet ancien petit caïd de banlieue parisienne est devenu l'un des intermédiaires les plus influents, raconte Joanne Tilouine, journaliste au Monde Afrique.
Il a appris en Afrique, avec des gens beaucoup plus expérimentés que lui, beaucoup plus rompus, ne serait-ce qu'au code d'un palais présidentiel africain. Il faut avoir les codes, il faut avoir un entre-gens, trouver les bons mots, trouver les bons cadeaux parfois aussi pour nouer les affaires. Et il se sent à l'aise dans cet univers africain, on se donne du mon frère, puis tout est oral, etc. Donc il a noué ses réseaux avec cette nouvelle génération. Théodorin Obiang, par exemple, avec qui il festoyait à Paris, qui aujourd'hui est le premier condamné dans l'affaire des biens mal acquis et qui est le vice-président de Guinée équatoriale.
Et c'est en Afrique qu'Alexandre Djouri a visiblement amassé une véritable fortune. C'est ce que les enquêteurs français essayent de percer à jour.
Oui, car l'origine de son argent, de cette fortune, eh bien pour l'instant, selon Pierre Péan, elle reste un grand mystère.
Alexandre Djouri, c'est un générateur d'argent qui n'est pas dans les circuits disons, officielle, traçable, etc. On dit qu'il a plusieurs milliards d'euros, ça, mais personne ne peut dire quoi que ce soit sur où est cet argent, comment il l'a obtenu, personne ne sait. Aujourd'hui, les enquêteurs ont le plus grand difficulté. Ils signent jamais un chèque. Il signe jamais un papier.
Oui, cela ajouté à l'affaire libyenne explique donc que les juges soient impatients de l'entendre. En attendant, Djouri vit à Londres sous bracelet électronique avec interdiction d'approcher d'une gare ou d'un aéroport. La demande d'extradition qui le concerne sera examinée le 17 avril.
Merci Élodie Guéguin. Votre enquête complète est à retrouver sur notre site franceculture.fr. L'enquête avance sur le crash de deux hélicoptères de l'armée de terre ce matin dans le Var, d'après le procureur de Marseille qui s'est exprimé cet après-midi. L'hypothèse de travail est celle d'une collision entre les deux appareils. Le drame a coûté la vie à 5 militaires. La météo, un temps perturbé demain avec des averses de pluie et de neige, notamment en plaine, à attendre sur plusieurs régions. La perturbation responsable arrivera par l'ouest et la Bretagne. Les températures attendues seront fraîches de 0 à 3 degrés le matin, de 4 à 8 degrés l'après-midi, avec quelques exceptions le long de la Méditerranée.